Banque Atlantique avec Club Elite, son service de fidélité et de conciergerie, disponible 7 jours sur 7, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre est tendue au Sénégal. Le convoi du Premier ministre Ousmane Sonko caillassé, le QG de l'opposant et maire de Dakar Barthélémy Diass vandalisé et incendié. Et puis il y a eu des bagarres entre partisans du PASTEF, parti au pouvoir, et les partisans de la coalition Takou Wallou de l'ancien président Macky Sall. Comment expliquez-vous ce climat de tension et les violences récurrente en période électorale? On en débat dans une demi-heure. Mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité. La rédaction de RFI et des experts vous répondent. Les élections au Botswana. Le président Masisi reconnaît la défaite et s'engage à faciliter la transition. Janvier, bonjour.
Oui, bonjour Madame Chantal Leroux et bonjour au reste de toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Permettez-moi de saluer aussi mon président, Mohamed Idriss Déby, qui fait un travail qui traque depuis quelques jours les terroristes à l'ouest du pays, c'est plus précisément au lac Tchad.
Voilà. Vous nous appelez de Gosbeïda, dans l'est du Tchad. En ligne avec nous, Claire Bargelès, correspondante régionale de RFI, basée à Johannesburg. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Janvier, vous avez une question sur le Botswana, ce pays d'Afrique australe d'environ 2,5 millions d'habitants, et qui votait pour ces élections générales mercredi dernier.
Parfait. Au Botswana, le président sortant a reconnu ses défaites aux élections législatives. Son parti était au pouvoir depuis 1966, c'est-à-dire depuis l'indépendance du Botswana. À ce sujet, j'ai deux questions, Mme Chantal Leroux. La première, comment expliquer cette défaite pour écrasante après plusieurs décennies au pouvoir?
Alors voilà, Claire Bargelès, en effet, hein, le BDC, le Parti démocratique du Botswana, qui gouverne depuis près de 60 ans, a connu une cuisante défaite. Comment ça s'explique, hein?
Oui, le président sortant, Moroti Masisi, 63 ans, a très vite reconnu qu'il ne pourrait pas prétendre à former un nouveau gouvernement alors que le dépouillement était toujours en cours et qu'il avait déjà perdu sa majorité absolue. Aux yeux du peuple, nous nous sommes trompés, a-t-il regretté, annonçant passer le pouvoir. Alors ces résultats sont tombés comme une surprise puisque personne ne s'attendait à une défaite d'une telle magnitude. Son parti, le BDP, un mouvement plutôt conservateur, n'a obtenu que 4 sièges à l'Assemblée nationale alors qu'il en avait auparavant 38. Cependant, cette chute spectaculaire s'explique aussi par le mode de scrutin du pays, où dès le premier tour, le parti qui a le plus de voix à l'intérieur d'une circonscription remporte le siège. Cela ne veut donc pas dire que le BDP n'a plus du tout d'électeurs. Par exemple, dans la zone de Boteti Ouest, il n'avait un retard que de quelques 2000 voix sur le parti qui a remporté ce poste de député. Le désamour des votants peut s'expliquer en premier lieu par la dégradation de la situation économique. Le Botswana, modèle de développement depuis son indépendance, connaît désormais un chômage de près de 26% et une croissance qui devrait s'établir à seulement 1% en 2024, notamment avec la baisse de la demande en diamants, la principale ressource du pays.
Et son parti a également souffert d'une division des voix.
Oui, avec la stratégie choisie par Yann Rama, c'est une figure politique clé. Il est le fils de Seretse Rama, le premier président du Botswana indépendant. Et Yann Rama, eh bien, il a lui-même gouverné le pays pendant 10 ans, jusqu'en 2018, avant de désigner Moroti Masisi pour lui succéder. Mais très vite, ils deviennent adversaires et Yann Rama doit s'exiler lorsqu'il est poursuivi par la justice pour possession illégale d'armes à feu. Il est revenu au pays pour cette élection et comme il ne pouvait pas se présenter après ses deux mandats, il a fait campagne pour un autre parti que le BDP. Et au contraire, en face, les forces de gauche sont parvenues à s'allier pour former une coalition solide établie il y a une dizaine d'années, évitant que les voix ne s'éparpillent.
Janvier, vous avez une autre question.
Oui, quels sont les prochains défis du nouvel exécutif de l'opposition?
Claire, le nouvel homme fort du Botswana, c'est donc Duma Boko, 54 ans, à la tête de cette alliance dont vous parliez, l'UDC, soit la coalition pour un changement démocratique. Quels seront ses premiers défis?
Il y aura d'abord un temps de transition avec une cérémonie d'inauguration qui devrait bientôt avoir lieu. Et en termes de transfert de pouvoir, le président sortant s'est déjà engagé à œuvrer pour que tout se passe pour le mieux avec le nouveau leader botswanais. Puis très vite, Duma Boko va devoir s'atteler à réaliser les promesses faites pendant sa campagne, notamment de lutte contre la pauvreté et d'augmentation du salaire minimum, sans quoi il pourrait subir le même sort que son prédécesseur. Après avoir désigné son gouvernement, cet ancien avocat devra notamment s'attaquer au plus gros dossier sur la table, comment transformer l'économie et redresser les finances publiques.
Et pour cela, on l'a évoqué tout à l'heure, il va falloir se pencher sur la filière diamantaire.
Oui, puisque ces pierres précieuses représentent un quart du PIB du pays et un tiers de ses recettes fiscales. Or, le Botswana, deuxième producteur de diamants au monde, observe avec inquiétude la baisse des prix et le déclin de cette industrie, alors qu'on voit une progression du marché des diamants synthétiques. Donc, le nouveau président devra établir quelle sera sa relation avec l'entreprise De Beers, possédée à 15% par l'État, mais qui pourrait voir ses 85% de parts restantes être cédées par le géant minier anglo-américain. Duma Boko devra aussi décider ce qu'il voudra faire de l'accord obtenu de force par le président sortant pour renégocier le partage des ventes de diamants. Enfin, il faudra faire des choix pour obtenir une diversification de l'économie, pour réduire sa dépendance à un seul secteur.
Merci beaucoup Claire Bargelès pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Janvier, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Gosbeida. Au moins 217 morts, c'est le bilan des inondations qui ont frappé l'Espagne la semaine dernière. La visite du couple royal et du Premier ministre Pedro Sanchez dans les zones sinistrées hier a dû être écourtée face à la colère de la population. Le roi Felipe VI s'est même fait traiter d'assassin. Donald, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. En ligne de Valence, Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour Donald.
Vous êtes chef adjoint du service environnement climat de RFI et notre envoyé spécial en Espagne. Donald, on vous écoute.
Ont causé la mort de plus de 200 personnes. Comment expliquer cette inondation très rare en Espagne?
Pauline Glaise.
Mais alors, il y a plusieurs causes à ce drame, Donald. Parmi les facteurs qui expliquent le phénomène qui s'est produit, José Angel Núñez, le chef de la climatologie à Valence de l'AEMET, c'est l'agence espagnole de météorologie, il met en avant les caractéristiques géologiques des lieux. Les reliefs sont assez proches de la mer. Quand un flux d'air arrive, il se heurte aux montagnes, remonte, et ça occasionne des pluies parfois très fortes. Des pluies d'ailleurs plus fortes en raison du réchauffement climatique, selon une étude d'attribution rapide. Elles ont été 12% plus intenses que si la planète ne se réchauffait pas. Et puis les cours d'eau sont courts, avec donc peu de possibilités de système de régulation. Ils sont relativement étroits et réceptionnent une pluie qui descend des montagnes et qui ruisselle donc vite. En fait, la Seine par exemple, elle est plus large et sur un territoire plat. Alors l'eau, quand il y a des inondations, monte plus lentement. Là, il y a eu beaucoup d'eau qui s'est accumulée rapidement. À un moment donné, le volume était même 10 fois plus important que ce que peut contenir la Seine, le tout dans un espace plus contraint, d'où ce débordement. Cela dit, les gouttes froides d'une ampleur bien moindre sont un phénomène connu des Valenciens. Et puis il y a un précédent est resté dans les esprits, la crue de 1957 qui avait inondé le centre-ville. Depuis, le cours du fleuve a été déplacé pour protéger le centre de Valence.
Est-ce que cela suffit à expliquer le nombre de morts, Pauline ?
Non, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. La question de la préparation au risque est fondamentale. Et là, il faut bien distinguer deux types d'alertes. En fait, l'AEMET avait émis un bulletin d'alerte rouge plusieurs jours avant. L'information est publiée sur leur site, sur les réseaux sociaux, mais encore faut-il les consulter régulièrement. Elle est aussi transmise aux autorités. Et puis, ce qui a pu jouer dans le fait que la population ne s'est pas méfiée, c'est que quand la crue s'est produite, eh bien, en fait, il ne pleuvait pas dans les villes sinistrées. L'eau venait de l'amont. Et en revanche, il existe aussi un système d'alerte par téléphone mobile, une alarme très forte qui retentit sur tous les téléphones qui bornent dans une zone donnée. Et cette alerte-là, elle a bien été donnée, mais trop tard, entre 20h et 21h. Et ce que les gens que j'ai rencontrés disent souvent, c'est que l'alerte a été donnée quand ils avaient déjà de l'eau jusqu'au cou. Alors pourquoi a-t-elle été donnée si tard par les autorités? Pour l'instant, on n'a pas la réponse.
Donald, vous aviez une dernière question.
Oui. Comment les rescapés sont-ils pris en charge? Et pourquoi y a-t-il des critiques autour des secours?
Pauline.
Des centres, alors sur la prise en charge, il y a des centres d'accueil d'urgence qui ont été mis en place dans des centres sportifs de Valence, par exemple. Des points de distribution d'eau et de nourriture ont été peu à peu organisés dans les villes qui sont restées isolées, même si pour je pourrais pas vous dire combien et avec quelle fréquence aujourd'hui. Pour cela, la Banque alimentaire a aussi organisé un grand point de collecte et de dons près du stade. Et puis les sinistrés sont beaucoup aidés par des volontaires, des citoyens lambda, pour beaucoup venus de Valence. Certains volontaires viennent de plus loin, de Barcelone par exemple. Essentiellement, ils aident à commencer à nettoyer, à évacuer la boue. Ils apportent également quelques vivres. Une phrase réapparaît régulièrement ici, le peuple sauve le peuple.
Et il y a donc ces critiques hein, autour des secours. Pourquoi ? Parce que l'alerte a été donnée trop tard ou parce qu'il y a vraiment eu aussi du retard dans l'acheminement de l'aide ?
Ah ben alors les deux, c'est le fait que l'alerte ait été donnée trop tard est vraiment un sujet de tension ici. Et puis les secours sont débordés dans les heures, les premiers jours qui ont suivi le drame. Beaucoup d'habitants disent ne pas avoir reçu d'aide. Ils ont dû se débrouiller pour dégager des passages au milieu de la boue, trouver des vivres, trouver comment sortir éventuellement des villes sinistrées. Des gens sont restés piégés chez eux, l'accès à leur immeuble étant bloqué par des amas de détritus ou de voitures empilées. Mais il faut dire aussi que la tâche est immense. C'est toute une aire urbaine qui a été frappée et la recherche de disparus est toujours en cours. Cela prend donc beaucoup de temps pour des raisons d'accessibilité. Beaucoup de gens ont été pris au piège dans des garages souterrains ou sous les piles de voitures. Et or, les autorités ont tardé à déployer l'armée pour aider à gérer la crise. Alors beaucoup en veulent à Pedro Sanchez, le président du gouvernement, de ne pas avoir envoyé des renforts, de ne pas avoir accepté des propositions d'aide de la France, par exemple. Mais en Espagne, dans un certain nombre de cas, il faut que ce soit la communauté autonome qui demande le déploiement de l'armée. Là, la chronologie est encore un peu confuse et face au tollé, les explications virent à la querelle politique entre un gouvernement central de gauche et un gouvernement régional de droite.
Merci beaucoup, Pauline Glaise, envoyée spéciale de RFI à Valence. Donald, bonne journée à Lomé, au Togo. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, Chantal.
On reste à Lomé avec vous. En ligne avec nous, Aïssami Abdou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur des opérations de Médecins sans frontières pour l'Afrique de l'Ouest. Jean-Claude, on vous écoute.
Oui, j'ai une question concernant le Mali.
Allez-y.
Le médecin sans frontières suspend temporairement ses opérations à Nampala, au Mali. Pourquoi le médecin sans frontières a été contraint de prendre une telle décision ?
Aïssami Abdou, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le 14 octobre dernier en périphérie de Nampala et qui vous a poussé hein, à suspendre temporairement vos opérations ?
Ah oui, effectivement, nous avions dû prendre la difficile décision de suspendre nos opérations parce que une de nos équipes médicales a été violemment prise en partie et vilipendée par des personnes armées en opération régulière de la zone. Vous comprendrez que nous dénonçons avec la dernière énergie cet acte de violence physique faite contre une équipe médicale, une équipe humanitaire qui s'est trouvée être dans un village, dans un centre de santé en vue d'apporter des soins aux populations.
MSF était la seule ONG internationale à intervenir dans ce secteur du Mali ?
Oui, MSF était la seule ONG internationale médicale humanitaire présente dans la zone. Déjà, une zone assez excentrée avec des réelles difficultés de santé. Vous savez que dans une période de haute prévalence du paludisme, depuis la saison de dernier, où les questions de référencement sont aussi complexes. Donc, c'est une zone difficile avec des réels problèmes d'accès aux routes.
Aïssami, la liaison n'est pas très bonne. Je crois que je vais devoir l'interrompre, même si on avait une dernière question. On voulait savoir où en étaient vos discussions avec les autorités maliennes pour la reprise des activités. En deux mots, vous pouvez nous dire si vous comptez reprendre bientôt ou pas ?
Oui, nous comptions reprendre. Nous avions engagé une série de discussions avec les autorités, la communauté, avec tout le monde de la zone. Et dès que les conditions de sécurité nous le permettent, nous reprendrons nos activités.
Merci beaucoup Aïssami Abdou pour ces précisions. Jean-Claude, bonne journée à Lomé. Coup de froid sur les relations entre Berlin et Téhéran après l'exécution du dissident iranien naturalisé allemand Jamshid Sharmad. Jibi, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Kaolack. En ligne avec nous, Pascal Thibault, correspondant permanent de RFI à Berlin. Bonjour Pascal.
Bonjour Chantal.
Djibril, on vous écoute, vous avez la parole.
Voilà, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Je voudrais savoir, après l'exécution du dissident irano-allemand, et suite aux conséquences également des fermetures des différents consulats, pourquoi l'ambassade iranienne à Berlin n'a pas été fermée et pourquoi aussi également l'ambassade allemande à Téhéran n'a pas été fermée. Quelles peuvent être les conséquences au niveau de l'Iran pour les, au niveau de l'Allemagne pour les Iraniens qui sont là-bas?
Alors Pascal Thibault, donc l'Allemagne a-t-elle fermé trois consuls, enfin pourquoi l'Allemagne a-t-elle fermé trois consulats iraniens sur son sol, donc Francfort sur le Main, Munich et Hambourg, et pourquoi n'a-t-elle pas fermé l'ambassade d'Iran à Berlin et l'ambassade d'Allemagne à Téhéran?
La question, c'est un petit peu de la riposte graduelle qu'on veut utiliser. Il y a encore quelques semaines, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait estimé que cette fermeture des consulats n'était pas appropriée. Donc, visiblement, elle a changé d'avis après l'exécution de Yamshid Shermat au début de la semaine dernière. Pourquoi ne pas avoir fermé l'ambassade? Parce que cela aurait impliqué une mesure similaire contre l'ambassade d'Allemagne à Téhéran. Et donc, en fait, de facto, la rupture des relations diplomatiques. Or, il y a d'autres Allemands ou Irano-Allemands qui sont en prison en Iran. Et donc, conserver ces relations diplomatiques, conserver une ambassade à Téhéran, ça peut permettre de conserver le lien avec ces personnes pour parvenir, dans la mesure du possible, à les sortir des prisons iraniennes. Voilà pourquoi cette décision a été prise de ne seulement, entre guillemets, fermer que les trois consulats iraniens en Allemagne.
Quelles conséquences la fermeture de ces trois consulats a-t-elle sur les Iraniens en Allemagne et on estime à combien le nombre d'Iraniens présents en Allemagne?
Alors, on estime qu'il y a à peu près 300 000 citoyens iraniens en Allemagne. La fermeture des consulats, ça signifie eh bien que pour leur démarche administrative, il ne leur restera plus comme solution dans quelques semaines. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. La fermeture des consulats, il ne leur restera plus comme solution donc que de s'adresser à leur ambassade à Berlin. Ça signifie concrètement, évidemment, des démarches supplémentaires, des trajets le cas échéant. Ça signifie aussi pour les Allemands, évidemment, ils sont moins nombreux sans doute à vouloir se rendre en Iran, et bien que la seule porte entre guillemets à laquelle ils peuvent frapper pour obtenir un visa, et bien ça sera également l'ambassade iranienne à Berlin.
La plupart de ces 300 000 Iraniens sont des réfugiés politiques ou pas?
Alors, une partie, effectivement, sont des réfugiés politiques arrivés avant, après, à des dates différentes, comme Yamshid Shermat après la révolution iranienne en 1979. C'est quand même le gros des troupes, mais il y a aussi d'autres Iraniens qui sont arrivés plus tard et pas forcément immédiatement après cette révolution. Cela signifie aussi qu'il y a évidemment pas mal de personnes qui disposent de la double nationalité, qui effectuent des voyages, le cas échéant, dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, hormis cette fermeture des consulats, le ministère des Affaires étrangères ici à Berlin a recommandé aux Allemands, et plus particulièrement aux Allemands qui ont également la nationalité iranienne, de ne pas se rendre dans ce pays, parce qu'on craint, je cite, que ces personnes puissent être prises en otage dans le cadre du bras de fer politique qui oppose les deux pays.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pascal Thibault, pourquoi Yamshid Shermat, 69 ans, a été exécuté le 28 octobre à Téhéran? De quoi était-il accusé?
Alors, il faut rappeler qu'il était venu s'installer en Allemagne avant de déménager en 2003 aux États-Unis, où il était actif dans l'opposition iranienne. Il a été enlevé lors d'un déplacement par les autorités iraniennes à Dubaï. Il a été donc ramené à Téhéran, où il a ensuite été accusé. Un procès a eu lieu et une condamnation à mort a donc été prononcée contre lui pour des activités terroristes auxquelles il se serait livré sur le sol de l'Iran. Des affirmations qui ont été rejetées à la fois par sa famille mais aussi par les autorités. Beaucoup de personnes qui connaissent le dossier en Allemagne estiment qu'il était en